On ne peut pas savoir avec certitude ce qui s'est passé il y a plus de 6000 ans en arrière, parce que nous ne possédons aucun document écrit. Nous sommes donc réduits à faire des conjectures. Ce qui est certain, par contre, est que depuis la nuit des temps, déjà après la désobéissance de nos premiers parents, Dieu avait prévu la rédemption de l'homme. Je continue à lire dans le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Par une offrande unique, Jésus a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. C'est là ce que le Saint-Esprit nous confirme de son côté. Car il dit d'abord, « Mais voici quelle alliance je vais établir avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je placerai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. » Puis il ajoute, « Je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés ni de leurs fautes. » Versets 15 à 17. L'auteur cite à nouveau les bénédictions de la Nouvelle Alliance, bénédictions qui avaient été prophétisées et qui étaient donc l'accomplissement de promesses que l'Éternel avait faites par l'intermédiaire de ses prophètes et surtout Jérémie. En mentionnant le Saint-Esprit, l'auteur dit en substance que la prophétie qu'il cite vient de lui, une façon d'affirmer que Jérémie était inspiré de Dieu. Or, cet homme avait annoncé d'avance qu'un jour il y aurait une nouvelle alliance, qu'elle serait gravée dans les cœurs des croyants et qu'un pardon total leur serait accordé. L'auteur, qui s'adresse plus particulièrement aux Hébreux, leur dit en substance qu'ils ne peuvent pas accepter les paroles de Jérémie et rejeter la nouvelle alliance en Jésus qu'il a prophétisé. Contester le Christ, c'est censurer Jérémie, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Je continue. Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. Verset 18. Comme le sacrifice parfait de Jésus procure le pardon, c'est qu'il est efficace et par conséquent inutile de continuer à offrir le sang des animaux sur l'autel, surtout lorsque l'on considère qu'il ne pouvait pas effacer les péchés. Se détourner de Jésus, c'est donc renoncer à tout espoir de pardon pour l'éternité. Je continue. Ainsi donc, frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Verset 19. L'auteur s'adresse ici à ses frères de sang, aux Hébreux en général. Il aura déjà longuement parlé du lieu très saint du tabernacle, où sous l'ancienne alliance, seul le grand prêtre pouvait entrer et seulement une fois l'an. Maintenant, il met l'accent sur l'une des plus grandes bénédictions de la Nouvelle Alliance, la possibilité d'entrer dans le véritable lieu très saint qui se trouve dans les cieux. Ce droit est accordé à tous ceux qui placent leur foi en Jésus parce qu'il s'est sacrifié pour eux et son sang est en quelque sorte un laissez-passer qui nous permet de nous approcher de Dieu et demeurer auprès de lui pour l'éternité. Une des grandes vérités que Jean Calvin a dépoussiérées est la prêtrise universelle des croyants et leur droit d'avoir accès à Dieu. Pour les Juifs qui prenaient au sérieux le système sacerdotal lévitique, un tel privilège était extraordinaire. L'auteur en est tout à fait conscient et il utilise tous les arguments à sa disposition afin de les exhorter à prendre la décision ferme et définitive d'abandonner le vieux système lévitique et de placer leur foi en Jésus. Lui seul a satisfait la justice de Dieu et c'est uniquement en son nom que l'homme peut recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle. Le concept de pouvoir simplement venir à Dieu était tout à fait nouveau et révolutionnaire. En effet, après qu'Adam et Ève aient désobéi au Créateur, ils ont été chassés du paradis terrestre et Dieu plaça des chérubins munis d'épées flamboyantes pour en garder l'entrée. Je continue le texte. Jésus nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Verset 20. Le mot pour « nouveau » n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament, et il était utilisé pour du bétail fraîchement abattu. Ainsi, le Christ qui a été fraîchement abattu sur la croix est aussi le chemin récemment ouvert qui mène à Dieu. Et c'est la route de la vie parce que Jésus a vaincu la mort et effacé ses conséquences. Comme il a pris sur lui la malédiction qui pesait sur nous, le chemin qui mène à Dieu n'est plus barré, comme en témoigne le rideau qui fermait le lieu très saint et qui s'est déchiré tout seul au moment où le corps meurtri de Jésus a péri. Tant que Jésus était vivant, sa chair représentait la porte fermée du ciel, mais au moment où il a expiré, cette barrière s'est effondrée. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ce n'est pas la vie ou l'enseignement de Jésus qui sauve, mais sa mort sur la croix. Je continue. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Verset 21. Pour les Hébreux qui étaient englués dans un système ritualisé lourd et complexe, la liberté d'entrer dans le lieu très saint où seul le grand prêtre avait accès allait à contre-courant de toute leur éducation religieuse. Jésus occupe la nouvelle fonction de grand prêtre afin de nous emmener avec lui auprès de Dieu à la droite duquel il s'est assis et intercède pour nous. Je continue. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Verset 22. Nous sommes conviés à nous approcher de Dieu, mais pas n'importe comment. Je dois premièrement avoir un cœur droit. Ce mot signifie authentique, sincère. Il décrit quelqu'un qui n'essaye pas de donner le change et ne fait pas de manière. Les chefs religieux font beaucoup trop de chichi. Ils portent des vêtements particuliers, ils ont un gestuel plus ou moins magique et utilisent les mots décidés par leur hiérarchie. Dans le judaïsme, c'est l'Éternel qui avait prescrit les rites, mais les Israélites les observaient pour la forme, afin que Dieu les laisse tranquilles, mais leur cœur était indifférent et froid à son égard. Le Nouveau Testament raconte l'histoire de Simon le magicien qui avait fait profession de foi, mais dont le cœur était particulièrement corrompu par l'argent, et ce qu'il cherchait, c'était un nouveau truc pour faire du fric. Dieu demande donc à ce qu'on vienne à lui avec sincérité, sans simagrer et sans faux semblant. En second lieu, l'auteur exhorte ses lecteurs de s'approcher de Dieu avec la pleine assurance que donne la foi. Dire « croire en Dieu » ne signifie pas grand-chose, sinon qu'on n'est pas athée. Ce n'est pas une certaine quantité de foi qui procure la vie éternelle, mais son objet. Ne sont sauvés que ceux qui font exclusivement confiance à Jésus. Dans un évangile, on lit « La parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. » Le Seigneur demande l'exclusivité de notre foi. Il n'a que faire de l'homme prudent et indécis qui va manger à tous les râteliers. Un peu de Christ, un peu de religion et un peu de bonnes actions. Celui qui place sa confiance en Jésus ne fait pas un saut dans l'inconnu, mais un acte de volonté qui s'appuie sur des faits précis et dignes de foi. Le fondement du christianisme est la résurrection de Jésus, mais beaucoup de gens la mettent en doute. Pourtant, un examen minutieux des circonstances qui ont entouré cet événement fabuleux montre que leur seule explication plausible est que Jésus est sorti vivant du tombeau. Quand on est convaincu qu'il est vraiment ressuscité, il est plus facile de l'accepter comme sauveur et maître. En dernier lieu, l'auteur écrit aux Hébreux qu'ils doivent s'approcher de Dieu le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Cette image provient du sacerdoce lévitique au cours duquel les prêtres de service devaient rituellement se purifier et laver la vaisselle sacrée avant de les asperger de sang. Ces petites cérémonies étaient fréquentes et contraignantes. Sous la nouvelle alliance, comme Dieu a été entièrement satisfait par la mort expiatoire de Jésus, tous les rites qui faisaient barrière entre lui et l'homme n'ont plus aucune raison d'être. Dès que quelqu'un place sa foi en Jésus, sa culpabilité de pécheur disparaît car il est purifié de toute mauvaise conscience qui provient des péchés non pardonnés. Le corps lavé d'une eau pure est une allusion aux ablutions des prêtres qui, sous l'ancienne alliance, devenaient rituellement purs grâce à ce rite. Transposée à la nouvelle alliance, cette expression désigne la sainteté des croyants. Elle a deux volets que Jésus a mentionnés quand il a lavé les pieds des apôtres. En effet, quand Simon-Pierre lui a dit « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête », Jésus a répondu « Celui qui s'est baigné est entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds. » À part Judas, les disciples étaient entièrement purs à cause de leur union au Christ par la foi. Pourtant, de temps en temps, ils avaient besoin de se laver les pieds. Cette sainteté pratique consiste à marcher en nouveauté de vie, à reconnaître ses égarements quand on s'écarte de la volonté de Dieu, afin d'en être purifié et bien sûr à revenir dans le droit chemin. Quand le croyant médite les Écritures ou qu'il prie, il est dans la présence de Dieu. C'est alors le moment opportun d'avouer les fautes qui lui viennent à l'esprit. C'est ce que l'auteur demande aux Hébreux qui ont foi en Jésus de faire afin qu'ils puissent s'approcher de Dieu avec la pleine assurance que donne la foi. Je continue le texte. « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. » Verset 23. Le croyant possède l'espérance avec un E majuscule. Quoi qu'il arrive, il peut tenir ferme parce qu'il sait qu'à long terme, son avenir éternel est assuré. Ceux qui ont la foi ne renieront évidemment pas le Maître qui les a sauvés, et ne deviendront pas indifférents à son égard. Cela dit, dans certaines circonstances extrêmes, des situations particulièrement adverses, chacun peut connaître un moment de faiblesse. Mais les vrais croyants auront tôt fait de se ressaisir. Les réformateurs, et Calvin en particulier, enseignaient la persévérance des saints dans l'épreuve, c'est-à-dire que ceux qui ont vraiment placé leur confiance en Jésus tiennent bon parce qu'ils bénéficient de l'aide surnaturelle de Dieu qui est fidèle à ses promesses. Je continue. Éveillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Verset 24. Le mot pour encourager a donné paroxysme en français. Il veut dire stimuler, inciter ou exciter. L'auteur a passé en revue plusieurs marques du croyant. Il a cité la droiture, la sincérité, la foi, la pratique de la sainteté, puis l'espérance. Et maintenant, il mentionne l'amour fraternel. Comme l'apôtre Paul, l'auteur encourage ses lecteurs hébreux à pratiquer l'amour, une vertu éminemment chrétienne. Moïse et les prophètes aussi adressaient des exhortations semblables aux Israélites, mais elles étaient davantage de l'ordre du devoir prescrit par la loi qu'une spontanéité venant du cœur. Je lis un passage. « Efforcez-vous de pratiquer le bien, d'agir avec droiture, assister l'opprimé et défendez le droit de l'orphelin, plaider la cause de la veuve. » Fin de citation. Je continue le texte de l'Épître aux Hébreux. « Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Verset 25. L'expression « le jour du Seigneur » est une référence au retour en gloire de Jésus-Christ qui aura lieu à la fin des temps. Les croyants ont besoin les uns des autres afin de se ressourcer et de s'encourager mutuellement dans la foi. La communauté chrétienne est comme un foyer où brûlent des bûches. Tant qu'elles sont ensemble, elles forment une belle flambée, mais si on les éloigne les unes des autres, elles finissent par s'éteindre. La porte qui donne accès à la présence de Dieu est grande ouverte et chacun peut y entrer et profiter par là de la communion spirituelle avec ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. L'amitié ou l'intimité fraternelle entre croyants qui commence ici-bas continuera dans l'au-delà pour l'éternité. Je continue le texte. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous choisissons délibérément de pécher contre Dieu, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. Il y a au contraire une perspective redoutable, celle du jugement et d'un courroux de feu qui doit dévorer les rebelles. Versets 26 et 27. Nous arrivons devant un passage terrifiant. Des 5 avertissements de l'Épître, celui-ci est le plus sévère. La plupart des péchés sont volontaires, mais ici l'auteur a en vue les actes présomptueux dits à main levée contre Dieu. Le mot pour connaissance désigne une compréhension pleine et entière. Celui pour choisissons délibérément signifie une intention délibérée et réfléchie. Ce ne sont donc pas des fautes commises par ignorance ou par faiblesse, mais d'actes prémédités et continus. Sous la loi, de tels péchés n'étaient couverts par aucun sacrifice. Je lis un passage. Si quelqu'un commet délibérément une faute, qu'il soit autochtone ou immigré, il fait injure à l'Éternel et il sera retranché du milieu de son peuple. Pour avoir méprisé la parole de l'Éternel et violé son commandement, il doit être retranché car il porte la responsabilité de sa faute. Les Hébreux auxquels l'auteur s'adresse connaissaient parfaitement bien l'œuvre de Jésus sur la croix, mais ont choisi de rejeter la grâce de Dieu ou sont sur le point de le faire. Précédemment, l'auteur a dit d'eux qu'ils ont été une fois éclairés, ont goûté au don du ciel, ont eu part au Saint-Esprit, ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir et se sont détournés de la foi. Fin de citation. Ce sont des apostats. Or, le pire est qu'ils naissent au sein des croyants. L'apôtre Jean écrit « Ses adversaires du Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous, mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. » Judas avait regardé la vérité en face, contemplé la lumière venue du ciel, était le témoin d'une vie parfaite, et pourtant il a trahi le Fils de Dieu pour quelques misérables pièces. Les Hébreux, qui sont dans la ligne de mire de l'auteur, avaient prétendu accepter Jésus, mais après un certain temps, pour une raison ou pour une autre, ils ont décidé de retourner au temple afin de renouer avec le sacerdoce lévitique. Par cette démarche, ils renoncent au sacrifice de Jésus, or c'est le seul qui peut ôter les péchés, il n'y en a pas d'autre. Cette attitude méprisante à l'égard du Fils de Dieu dévalorise le sang de l'Alliance qu'il a versé pour le pardon des fautes. C'est un outrage au Saint-Esprit. Rejeter la grâce de Dieu en toute connaissance de cause est une faute impardonnable. Il aurait mieux valu pour eux, dit l'apôtre Pierre, ne pas connaître le chemin d'une vie juste plutôt que de s'en détourner après l'avoir connu et d'abandonner le saint commandement qui leur avait été transmis. Il confirme la vérité de ces proverbes, le chien retourne à ce qu'il a vomi et la truie à peine lavée se vautre de nouveau dans la boue. Comme les sacrifices d'animaux préfiguraient celui du Christ, maintenant qu'il est mort sur la croix, tout est accompli. En conséquence, l'obéissance aux règles cérémonielles de la loi, qui pendant des siècles fut la volonté de Dieu, est désormais un acte présomptueux dirigé contre lui. C'est pire que lui cracher au visage. L'auteur insiste lourdement sur le fait que les Hébreux doivent totalement abandonner pour toujours toutes les pratiques liées au système sacerdotal traditionnel. S'ils refusent, ils vont au-devant d'un terrible châtiment. Aujourd'hui aussi, il existe des gens qui s'engagent à suivre Jésus, se font baptiser et témoignent pour lui, ils s'associent aux croyants et fréquentent une assemblée, et puis, après un certain temps, ils se lassent, leur enthousiasme refroidit, et ils estiment que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le prix à payer est trop élevé. Cette démarche n'est pas due à l'ignorance, mais c'est un rejet réfléchi et volontaire de ce que l'on sait être la vérité. Le croyant peut faiblir dans sa foi et devenir désobéissant. ce qui est mal faire. Mais il ne rejette pas pour autant le Seigneur. L'apostat, par contre, a une très bonne compréhension de l'œuvre rédemptrice de Jésus et la rejette. C'est un persifleur qui adopte une attitude suffisante et hautaine à l'égard du Seigneur. Si, après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous choisissons délibérément de pécher contre Dieu, il ne reste plus, dit l'auteur, qu'une perspective redoutable, celle du jugement et d'un courroux de feu qui doit dévorer les rebelles. Comme l'apostasie est le pire des péchés, il encourt le pire des châtiments. Juste avant que Jésus ne chasse les démons hors de deux hommes, ils se sont écriés « Que nous veux-tu, fils de Dieu? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps ?» Les démons avaient très bien compris. Ils savaient de longue date que leur jugement avait été arrêté et ils craignaient que la présence de Jésus signifiait que l'heure était venue. Les démons savent pertinemment que le jugement de Dieu contre ses ennemis est inéluctable et que l'ardeur du feu divin les dévorera. On pense généralement, et à tort, que l'Éternel est dur et inflexible et Jésus n'est que miséricorde. Pourtant, c'est dans le Nouveau Testament que la description du jugement est la plus menaçante.